Europe 1. Europe 1,
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. Un portrait aujourd'hui, celui d'un personnage mythique du Paris de la fin du 19e siècle, la Goulue, première vedette du Moulin Rouge, danseuse mythique de French Cancan. Et pour vous raconter son histoire, en tout cas le début de son histoire, de sa naissance jusqu'à ce qu'elle soit sacrée reine du Moulin Rouge, je m'appuie sur une très belle biographie qui paraît aux éditions du Rocher, La Goulue, reine du Moulin Rouge, de Marilyn Martin, qui est là avec moi. Bonjour à vous.
Bonjour Christophe.
Je compte sur vous tout à l'heure évidemment pour nous raconter la fin de cette histoire. Moi je raconterai le tout début.
Grand plaisir.
C'est une histoire que j'ai écrite avec Simon Veil, réalisation Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
L'histoire de la Goulue commence un soir d'été 1866, un soir d'orage, dans une petite maison ouvrière de Clichy, près de Paris, chez Madeleine et Dagobert Weber. Lui est charpentier, elle est couturière. Ils ont déjà 3 enfants, et cet après-midi du 11 juillet 1866, Madeleine, qui a maintenant 30 ans, est sur le point de mettre au monde son 4e. Elle vient de perdre les os. La mère Mandragore, la sage-femme, arrive. Une voisine, Amélie, est déjà là, venue tout préparer. Le lit, le linge, le feu, l'eau chaude. Sous l'oreiller de Madeleine, elle a glissé au passage une image de Sainte Marguerite. Il paraît que ça aide. Bon, et on attend. Et l'enfant arrive le lendemain matin.
Ben, c'est une fille, bien dodue ma foi, qui doit bien peser ses 700 livres.
Et cette fille, il est décidé de l'appeler Louise Joséphine. Et cette petite fille que nous allons regarder grandir se découvre toute petite une passion pour la danse. En vérité, c'est sa maman, Madeleine, qui la lui transmet. Madeleine, quand un orgue de barbarie passe dans la rue, elle ne peut pas s'empêcher de danser. C'est plus fort qu'elle. Et là, elle serre la petite Louise contre elle et elles dansent, toutes les deux. Et la mère jette 10 sous par la fenêtre pour que ça continue. Et 20, et 30, jusqu'à 40 sous. Et Louise adore ces moments. C'est là que ça commence, en vérité. Et tout ça en pleine guerre. Car la France vient de déclarer la guerre à la Prusse. On est en 1870. Mais c'est son père, Dagobert, qui lui apprend le pas du chahut sur cette musique d'Offenbach. L'art de lever la jambe. Et assez vite, le père se met à la produire dans des fêtes, dans des noces et dans des banquets. La gamine monte sur la table et c'est parti. Elle se déhanche, elle mouline des bras et des jambes, elle gambille. Les gens adorent. Une gamine si jeune et douée en plus.
Oh, monsieur Dagobert, oh, quelle est formidable votre fille. Vous avez bien de la chance.
Et ça continue quand elle est dans sa chambre, devant la glace. Le seul miroir de la maison, elle prend la pose, elle fait la moue, elle essaye des positions, elle salue. La gamine a trouvé son truc, et elle ne sait pas encore à quel point la danse va changer sa vie. Mais pas tout de suite. À l'âge de 13 ans, Louise se retrouve à travailler dans la blanchisserie où travaille déjà sa mère et ses sœurs, la blanchisserie Noisée, à Clichy. Et figurez-vous que le patron l'a choisi, elle et Émile, le fils d'une blanchisseuse, pour poser sur une carte postale publicitaire. Mazette. Elle se place sur le seuil. Elle s'est fait un chignon très haut avec un accroche-cœur. Le photographe pose son trépied. Il fourre sa tête sous son drap noir.
« Allez, faites-moi un petit sourire, les enfants. On ne bouge plus. »
Clic-clac, c'est dans la boîte. Qu'est-ce qu'elle est jolie? Elle est très jolie. Et encore, la photo est en noir et blanc. On ne voit pas son regard bleu acier. La blanchisserie pendant qu'elle repasse. Louise n'arrête pas de danser. Sa mère n'aime pas trop ça.
Mais tu as le diable dans la peau. Vas-tu te concentrer sur ton travail au lieu de faire ta mijaurée, là?
Mais les autres blanchisseuses adorent. Ça les fait rire. Et plus ça les fait rire, et plus Louise ose braver l'autorité maternelle. Louise est en train de devenir une jeune fille très indépendante. Dans le dos de sa mère, elle va sur les fortifs. Elle va guincher. Sacrée Louise. Et donc, la diablesse a 13 ans et elle se met à fréquenter ce qu'on appelle la ceinture noire de Paris. Les fortifs, du côté de la porte de Saint-Ouen, repère de mauvais garçons et de filles aux mœurs légères. Il y a des gars guettes sur les fortifs. Sans licence, mais quel problème, la police n'y vient jamais. Et à chaque fois qu'elle le peut, Louise emprunte des jupons froufroutants à la blanchisserie et elle va lever la jambe dans les guinguettes. Lever la jambe en dansant, et pas que, si vous voyez ce que je veux dire. Et en rentrant, sa mère l'attend.
« Vas-tu te calmer, Louise, à fréquenter ces endroits? Je fais ce que je veux. » Et si ça ne va pas, je vais me mettre en ménage et je danserai toute la nuit si je veux. Oh malheureuse! Et ta vertu?
Ah! Ma vertu! Si tu passes par là-bas, va voir si elle y est encore.
Et vlan, la mère lui colle une beigne. À quoi ça sert? Elle le voit bien, Madeleine, que sa fille ne lui appartient plus. De toute façon, Louise est amoureuse. Son teint de pêche et ses cheveux d'or ont attiré le regard d'un bel artilleur.
J'avais 13 ans. C'était un soir d'été. Mon cœur se sentait tout gonflé. Je me suis dit, un militaire, ça me portera bonheur.
C'est lui qui lui a pris sa vertu. À part ça, je vous l'ai pas dit. Son père est mort. Un accident sur un chantier. Et sa mère s'est mise en ménage avec un Arnaud, un brave homme qui lui offre des robes. Et les robes, elle aime ça. Louise a maintenant 16 ans. Elle est toujours blanchisseuse, mais à Paris, près du théâtre des Batignolles. Et sa patronne la charge de livrer le linge chez les clients. Alors elle entre dans ses appartements bourgeois. Elle voit les sculptures, les tapisseries, elle voit le luxe. Et dans la rue... Dans la rue, elle plaît. Comment vous dire? C'est une nature. C'est une fille débordante de sève. C'est une belle fleur ingénue, spontanée, sans pudeur, qu'on imagine un peu perverse. Alors dans la rue, les marlous l'abordent. Ils reniflent la gagneuse. Et ils n'ont pas tort, hein. Louise fait commerce de ses charmes. Ne lui en voulez pas. C'est une vadrouilleuse. Elle essaye tout. Elle veut tout voir. Mais ceux qui veulent lui passer la bague au doigt, ah non.
Me marier? De la peau.
Indépendante. Elle est indépendante. Et elle a bien l'intention de le rester. Un dimanche soir, Louise se retrouve tout en haut de l'escalier de la butte Montmartre. Face au moulin de la galette, un ancien moulin à blé devenu une guinguette. Et là, elle pousse la porte du bal Debré, où l'on danse tous les dimanches et jours fériés de 3h de l'après-midi jusqu'à 11h du soir. 25 centimes l'entrée, le double pour les messieurs. Elle paye, elle enfile le couloir et elle se retrouve dans la salle de danse. Au milieu de toute une foule d'employés, d'ouvriers, de blanchisseuses comme elle, et de quelques vauriens aussi. Et là, un homme s'avance en redingote, la bouche édentée. On dirait Polichinelle.
Accepteriez-vous une valse, mademoiselle?
Là-dessus, l'encaisseur réclame son dû.
Pour danser, messieurs, c'est 2 centimes la valse.
Et elle accepte. Et tout en dansant, l'oiseau se présente.
Mon blase à moi, c'est Jules. Mais depuis qu'on m'a proclamé roi de la Gambille, mon surnom, c'est Valentin. La danse, vois-tu, c'est ma canne. C'est mon éther. Et la façon dont tu te trémousses me fait penser que tu es devenu aussi accro que moi. Je me trompe?
Bon, l'oiseau n'est pas un perdreau de l'année. Il a 23 ans de plus qu'elle. Mais c'est un sacré danseur. Ils tournent tous les deux. Les gens s'arrêtent les regarder. Et Louise vient de rencontrer Valentin le désossé, avec lequel elle va danser dans les 9 années qui viennent. Le même soir, Louise tape dans l'œil d'un certain Charles Destuc, quelqu'un qui va aussi beaucoup compter. Un peu journaliste, un peu impresario. Son petit nom, c'est l'intrépide vide-bouteille. Rapport au fait qu'il a trop fait la noce, au point qu'aujourd'hui, il ne peut plus boire que de l'eau de Vichy. Et un soir, ce Charles Destuc invite Louise au Grand Véfour. C'est lui qui l'a fait entrer dans la haute, dans le grand monde. Il l'emmène dans un bal masqué. Il l'habille en laitière, avec le corsage bien ouvert et la jupe un peu courte, pour qu'on voit ses jambes. Et Louise se retrouve dans une assemblée de mâles en rut.
Ils n'ont donc pas des femmes chez eux? Tous ces petits crevés, là?
Ce soir-là, elle fait sensation. Quand elle se met à danser, à lever la jambe et à lancer des you-you en inventant des pas, en sautant comme un cabri. Au passage, elle perd sa coiffe et à partir de maintenant, elle ne dansera plus qu'en cheveux. Les gens sont emballés. On commande du champagne et on lui sert du caviar. Et vous savez ce qu'elle dit?
Oh, ça vaut pas une bonne petite salade de cervelas?
Les gens éclatent de rire. Elle a fait un tabac. On lui donne un chapeau pour qu'elle fasse la quête. Elle récolte quelques pièces d'or et certains lui glissent directement la pièce dans le décolleté. Oh mes enfants, quelle soirée! Ce fut ma première sortie dans le monde chic. Mais que d'invitations ensuite! La goulue est lancée. Un temps, Louise a la passion du bourgeois. Gaston Goulu Chilapane, par exemple, qui crèche du côté du bois de Boulogne. Ses copains l'appellent le goulu. C'est comme ça qu'elle devient la goulue. Ou alors le marquis de Biron, avec lequel elle s'enferme quelques jours et qui l'emmène en Normandie. Ce qui ne plaît guère à sa mère, qui la traite de traînée. Mais ces bourgeois l'ennuient, en vérité. Elle préfère de loin les petits gigolos de ses balles, Charlot Tanzini, par exemple, un déménageur dont elle se fait tatouer le nom sur le bras gauche. J'aime Charlot pour la vie. C'est aussi à cette époque que Louise rencontre Pierre-Auguste Renoir, le peintre, qui l'a fait poser dans son atelier de la rue Saint-Georges, nu. Entre deux poses, elle lui dit
« Toi, tu peins. Tu resteras. Moi, je danse. On m'oubliera. »
Pas tout à fait, mademoiselle. Pas tout à fait. Et là, elle vient d'avoir 18 ans, et pour la première fois, elle danse comme professionnelle, à l'Élysée-Montmartre, boulevard de Rochechouart. L'endroit est à la mode, on y arrive en fiacre. Un mendigo vient ouvrir la portière, les femmes doivent avoir un chapeau, et les hommes un habit, et en haute forme. Il y a un orchestre de 40 musiciens. Et pour la première fois, on ne vient plus danser entre soi. On vient assister à des exhibitions, et notamment à celle de la goulue, dont la danse, pour l'instant, est un peu instinctive. Elle improvise. Et donc, il lui faut apprendre. Et Louise se met à apprendre avec une certaine Lucienne Beuze, alias Grille d'égout. Elle apprend par exemple à prendre le jupon, à entrouvrir le rideau, comme on dit.
Tu m'as bien comprise, hein? Quand tu pourras lever ta jambe et relever ton jupon d'un petit coup de pied, nerveux, hein, le coup de pied, mais sans te baisser et sans montrer ta chair, alors tu seras prête pour le bal.
Et petit à petit, la gamine parvient à mater l'étoffe. et à montrer sa chair, beaucoup plus que son professeur. Elle qui va bientôt montrer son cul au monde entier. Et c'est ensemble que la Goulue et Grille d'égout font naître sur la scène de l'Élysée-Montmartre ce qu'on appelle à l'époque le quadrille naturaliste, l'ancêtre du French Cancan. Et l'exubérance de la Goulue, sa provocation, légèrement teintée de vulgarité, lui vaut très vite la popularité. Le baron de Rothschild lui-même lui glisse 3 billets de 100 francs chiffonnés pour l'avoir levé son jupon et mettre ses couches de froufrou au niveau de son nez. À minuit, le tambour annonce le cancan. Les gens quittent leur table, se ruent vers la piste et forment un cercle autour des couples de danseurs. Et là, la Goulue se met à piaffer, à gambader en relevant son jupon. Elle frétille du buste, ses seins durs pointent sous sa blouse. Un chroniqueur de l'époque écrit: elle est une tourmente au milieu de la nuit, un appel du pied et du sexe, communiquant à toute une époque la force de vie qui est en elle. Et qui est là qui la regarde? Le commissaire Coutelat du Roche, de la police des mœurs. Il est chargé de combattre l'indécence. Il a autour du cou 1 centimètre de couturière, et quand il faut, il va mesurer l'échancrure des décolletés. Tout le monde l'appelle le père la pudeur. Et un jour, il la voit déboutonner son pantalon tout en dansant. Alors il l'entraîne à l'écart et il lui fait la remarque. Et elle?
Mais je te dis, petit père la pudeur, que c'est un accident! Est-ce que tu me crois, vieux mufle? C'est un accident!
Dans un coin ce jour-là, un petit bonhomme la regarde. Il tient un petit carnet à la main et il esquisse un dessin. Il est assez laid, cet homme. Mais la Goulue vient lui taquiner le museau de ses 12 mètres de jupon. Il s'appelle Toulouse-Lautrec. Il est peintre. Il adore cette fille. Il adore son coup de cul, sa manière de remonter son pantalon. Il adore ses fesses. Et elle, ma foi, elle l'aime bien.
Oh ben quand je vois mon cul peint par toi, mon petit touffu, je le trouve très beau.
Quand arrive l'exposition universelle de 1889, Louise a 23 ans. On vient d'inaugurer la Tour Eiffel. Et le soir venu, les visiteurs venus de toute l'Europe préfèrent aller au cabaret plutôt qu'au dîner officiel. Les princes, les princesses, les altesses préfèrent aller voir quadriller la Goulue. Et c'est comme ça que Louise devient célèbre dans le monde entier. Elle est la Parisienne. La Parisienne personnifiée. Un certain Joseph Holler s'apprête à ouvrir un cabaret Place Blanche, à Montmartre. Il recherche des danseuses pour l'ouverture. Et il vient donc voir danser la Goulue et Grille d'égout à l'Élysée-Montmartre. Et il les recrute, toutes les deux. La blonde, bien en chair et vulgaire, et la brune, maigre comme un jour sans pain et un brin coincé. Et lui et son compère Zilder ont une idée assez précise de ce qu'ils veulent faire, dans ce cabaret qu'ils vont appeler le Moulin Rouge.
Mon théâtre ne sera ni un café, ni un cabaret, ni même un bordel. Ça sera les trois à la fois.
Le Moulin Rouge est inauguré le 8 octobre 1889. Louise a alors 23 ans. Toutes les cocottes de l'époque sont là. Les chanteuses, les comédiennes, et aussi pas mal d'horizontales, comme on dit, des tapineuses. Plus le gratin de l'aristocratie et pas mal d'étrangers. Et les gens s'amusent. C'est indescriptible. Les danseuses envahissent la salle. Elle se met à lever la jambe. Et dès le premier soir, la Goulue devient la perle du moulin, la fille chérie de la maison. Les autres sont payés 180 francs par mois. Elle, elle touche 600 francs, auxquels il faut ajouter les soirées privées. Et dès qu'elle voit qu'elle a pris 2 cm de tour de taille, elle file au bain à vapeur, au Batignolles. Et elle a maintenant un joli appartement, rue de Turin, et une bonne pour lui préparer ses jupons. Un soir, le prince de Galles vient la voir danser. Il prend une table au premier rang. Elle va danser juste devant lui.
Et dis donc, Galles, tu payes le champagne ou c'est ta mère qui régale ?
Un murmure parcourt la salle. On frôle l'incident diplomatique. Mais le prince de Galles paye le champagne.
Et assez vite ? Eh bien, c'est une diva. Quand elle arrive au Moulin Rouge, les autres rasent les murs. C'est qu'elle n'est pas facile avec les autres danseuses, et notamment avec les nouvelles.
Un soir, une débutante lui tient tête. Eh bien, elle lui donne rendez-vous à 1h du matin sur le pont Caulaincourt, et elles se battent. Et ce jour-là, d'ailleurs, elle manque de se faire précipiter du haut du pont. Les marlous qui assistent à la scène sont obligés de les séparer.
Un autre jour, elle arrive au Moulin Rouge en tenant un bouc en laisse. Manière de dénoncer l'interdiction faite aux femmes d'entrer dans un lieu public sans être accompagnée d'un mâle.
Désormais, sur la scène du Moulin Rouge, la Goulue a un partenaire exclusif, Valentin le Désossé.
Vous vous souvenez ?
Elle l'avait rencontré au Moulin de la Galette.
Et Toulouse-Lautrec est toujours là, dans un coin.
C'est lui qui dessine l'affiche de la saison 1891, qui met la Goulue à l'honneur. L'affiche fait un carton dans tout Paris. Lautrec est devenu le peintre officiel de la Goulue.
Lautrec ? Ah, c'est un chic type. Il n'est pas comme les autres hommes.
Il me grandit. Elle est devenue sa muse, et il va lui consacrer une centaine de dessins et de tableaux, que la mère Lautrec d'ailleurs va brûler en grande partie parce qu'ils sont contre la morale. Louise a maintenant 28 ans, et elle est un peu fatiguée. Elle est usée par les excès et par l'alcool. Et c'est la fin d'une époque. Après 6 années en haut de l'affiche au Moulin Rouge, après 15 ans de cancan, la Goulue décide de changer de vie, de s'éloigner de Montmartre, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Elle s'achète une baraque foraine. Elle veut courir les fêtes et les foires. Et c'est le début d'une lente dégringolade.
Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.
Voilà, c'est là que j'ai arrêté mon histoire, mais on va la poursuivre avec vous, Marilyn Martin, qui est l'auteur de cette biographie de la Goulue. D'abord, pourquoi est-ce qu'elle arrête ? Pourquoi est-ce qu'elle quitte le Moulin Rouge ?
Parce qu'en fait, elle est enceinte. Voilà, elle attend un bébé, et donc la chair commence à triompher un petit peu du maillot, et elle est obligée d'arrêter. Et puis, comme vous l'avez si bien dit, elle est fatiguée. Elle est en bout de course, mais elle veut partir comme une reine.
Donc alors elle s'achète cette baraque foraine, qui est une baraque montable et démontable. Elle s'installe d'abord à la Foire du Trône, c'est ça ?
C'est cela. Et elle va demander à son petit touffu, à Toulouse-Lautrec, de lui peindre 2 panneaux publicitaires qui vont orner cette baraque et qui lui serviront de publicité.
Et qu'on retrouve aujourd'hui au musée d'Orsay.
Exactement.
Elles ont été coupées en 8, je crois, ces panneaux publicitaires reconstitués.
Effectivement, elles ont connu un destin à l'image de la Goulue. Voilà, elles ont été vendues, revendues, séparées en 8, comme vous le dites si bien. Et elles se sont trouvées d'abord au musée du Louvre, et au musée d'Orsay maintenant.
Alors, elle élargit son répertoire à cette occasion. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas que le quadrille. Elle se lance dans la danse espagnole aussi. Et puis la danse du ventre.
C'est ça, parce qu'en fait, ce qui se passe à cette époque, la danse de l'Almée, ce sont des danseuses égyptiennes de grande qualité. Et donc, elle va se produire avec un groupe de 8 femmes en dansant ces fameuses danses orientales. Donc, elle se fait faire des costumes avec des sequins et elle va commencer ainsi. Donc, ça, elle va appeler ce groupe le concert oriental.
Et puis, là-dessus, elle accouche et donc, elle est obligée d'arrêter un moment. D'ailleurs, elle pense que c'est fini, c'est-à-dire qu'elle ne repartira pas dans sa baraque. Elle la met en vente.
Oui, mais elle s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Donc, elle va continuer et elle va faire la rencontre de sa vie de foraine avec le dompteur Peson.
Qui est un dompteur de lion, de tigre et de puma.
Oui, c'est à l'image des Bouglionnes maintenant. Ils ont un nom dans le monde des Belluaires. Et elle va apprendre l'art de manier la fourche, de manier le fouet. Et elle va s'enticher de cet Adrien Peson.
Alors donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle danse au milieu des animaux sauvages?
Elle va d'abord danser et puis ensuite dans la cage. C'est des attractions qui sont très en vogue à ce moment-là. Et puis Peson va lui apprendre l'art du domptage, qui consiste à apprendre l'art en pelotage. C'est-à-dire qu'on ne met pas en valeur l'agressivité des fauves, mais plus leur qualité esthétique.
D'accord. Et elle va finir d'ailleurs par s'acheter elle-même une ménagerie.
Mais oui, parce qu'en fait, c'est une femme qui est indépendante. Hein.
Oui, et donc elle obéir veut... à ce dompteur, pas
non.
longtemps.
Il n'y a qu'un seul homme qu'elle n'a pas su dompter, c'était son fils, en fait. Donc elle décide de se mettre à son compte et elle va racheter certains animaux de ce dompteur avec qui elle aura eu quelques griefs. Parce qu'il faut savoir qu'elle était en ménage et que quand ça ne va pas, la goulue, elle n'a pas forcément les mots, elle a les gestes. Et elle va se fâcher contre lui, elle va lui lancer à son nez un trousseau de clés, ce qui va lui valoir quelques jours d'interruption de travail. Et elle va se venger en lui demandant aussi de réparation, parce que quand elle a travaillé dans cette cage, elle n'était pas rémunérée. Ouais. Et elle va lui demander réparation à travers de voies de presse.
Voilà. Et elle va obtenir, donc, elle va créer sa propre ménagerie. Elle va d'ailleurs manquer de se faire dévorer par un puma un jour. Elle échappe de peu à la mort.
Hein. Elle échappe de peu à la mort, effectivement. Elle a beaucoup de chance. Et elle va continuer quand même cette aventure en se mettant en ménage avec un prestidigitateur qui s'appelle Joseph Droxler, qui est originaire d'Alsace comme sa famille. Et elle va monter son propre cirque, en fait.
Mais ça va mal se terminer avec ce Droxler, n'est-ce pas?
Bah pareil, elle n'a pas les mots, elle va jouer du revolver contre...
Elle lui tire dessus. 4 balles.
Effectivement, et Joseph, il n'est pas du tout rancunier, parce qu'à chaque fois, il ne porte pas plainte, et il rentre dans la roulotte auprès de sa femme. Alors c'est des réconciliations à l'horizontale, mais ça ne va pas durer longtemps.
Et donc moi j'ai raconté tout à l'heure son histoire de son enfance jusqu'à son départ du Moulin Rouge. Et on est en train, avec vous, Marilyn Martin, de raconter la suite. On en était arrivé à peu près à ses 40 ans. Physiquement, elle n'est plus la goulue. Elle s'est empâtée. Elle boit beaucoup.
Elle boit, elle s'est empâtée, comme vous le dites si bien. Il y a une peinture de Toulouse-Lautrec qui la montre à la fin de ses années de règne au Moulin Rouge, où elle a les seins avachis, elle est démaquillée. Enfin, elle est fatiguée, c'est d'une femme en bout de course. Et effectivement, elle s'empâte, elle boit, elle fait la ribouledingue, comme elle dit, du côté de Montmartre. Et ça ne lui réussit pas, non, effectivement.
Elle passe souvent devant le Moulin Rouge. Et parfois, elle jette un œil. Alors, voilà, elle essaye de voir.
Eh ben, elle a toujours cette nostalgie d'avoir été une reine sur le parquet. Le Moulin Rouge, en 1915, il a brûlé, puis il va être construit. Et c'est vrai qu'elle jette un œil comme ça, furtif, du côté de la palissade. Et puis elle se dit, moi j'aimerais bien revenir au Moulin Rouge, refaire mon petit pas. C'est pas au Moulin Rouge qu'elle va revenir, elle va revenir au Tabarin dans les années 1904. C'est un lieu où on apprend à danser et on va l'embaucher pour justement qu'elle apprenne à de jeunes danseuses à faire le petit pas, à faire les pas de quadrille. Et voilà, ça sera sa mini-résurrection au niveau de la danse.
La fin est terrible, elle finit misérable.
Elle finit
oubliée,
pauvre, dans une zone de non-droit qui s'appelle la cité chiffonnière. Et donc elle est là au milieu de ses animaux, elle préfère nourrir ses animaux que d'acheter pour elle-même sa nourriture. Elle vend des lacets, de la confiserie, elle vend aussi des photos sur lesquelles elle était, voilà, où on la voit.
Elle était jeune et jolie.
Voilà. Et puis elle écrit quand même à Mistinguette pour faire son retour. Et elle a toujours cet espoir-là, et Mistinguette ne lui répondra jamais. Et il faudra attendre 1928, un an avant sa mort, pour qu'elle puisse revenir en tant que spectatrice dans ce fameux Moulin Rouge.
Avec sans doute beaucoup de rancœur, beaucoup de regrets.
De la rancœur, je pense pas, parce que c'était une femme profondément humaine, et comme elle dit, je n'ai pas de regrets, je n'en veux à personne, c'est la vie qui m'a lâchée. Lorsqu'il y avait des gens dans le besoin, je leur tendais la main, je faisais le miché, c'est ainsi qu'elle parlait, mais bon, je n'en veux à personne, c'est la vie.
Alors, on se souvient évidemment à la fin de cette histoire de ce qu'elle dit à Pierre-Auguste Renoir, le peintre, elle lui dit « Toi t'es peintre, tu resteras, moi je suis danseuse, on m'oubliera ». Elle s'est trompée. Comment est-ce que vous expliquez qu'on ne l'ait pas oubliée à une époque où on n'a rien enregistré, on n'a pas d'image d'elle en train de danser, on n'a que des photos et les tableaux de Toulouse-Lautrec? Comment se fait-il qu'on se souvienne d'elle?
Parce que c'est d'une personnalité hors du commun. Elle a un certain charisme. Comme vous l'avez bien expliqué, c'est une figure qui marque son époque. C'est une féministe avant l'heure.
Hein. Féministe, vous êtes sûre?
Ah oui, attendez, elle arrive déjà...
Parce qu'elle est indépendante.
Elle est indépendante, elle arrive avec un bouc au bout d'une laisse parce qu'il est interdit aux femmes de rentrer quand même sans un mâle au bras. Elle a son petit collier autour du cou qui montre qu'elle n'est attachée à rien sauf à elle-même.
Mais enfin, la danseuse à froufrou, c'est malgré tout l'objet de la contemplation des mâles.
Oui, mais elle en joue. Elle est pas si. On la décrit comme une perverse, une ingénue perverse et dénuée de toute intelligence. Elle est très intelligente. Elle joue de tout cela. Elle a très bien compris que la paresse va la sauver d'un certain oubli. Moi, je la trouve très, très en avance sur son époque.
Vous avez eu accès, vous, à un document probablement très, très émouvant, son journal intime.
Ah oui, là, ça a été. J'étais dans un magasin de jouets le jour de Noël, lorsque M. Péo Rico, directeur de communication, m'a. Du Moulin Rouge, oui.
Parce qu'il est là-bas.
Il est là-bas, il est enfermé.
Au coffre. Blessure,
oui, ouais. Voilà. Et il m'a montré. Il a fallu que je fasse mes preuves, hein, que je explique pourquoi je voulais faire ce projet, j'écrive ce projet, que j'écrive ce livre.
Mais c'est écrit en français?
Oui.
Parce que quand elle parle, c'est pas français qu'elle parle, elle parle argot.
Ouais, elle parle avec l'éducation qu'elle a eue. Et ce qui est dommage, c'est vrai qu'elle a pas les mots, mais elle écrit comme elle parle en fait. Et c'est ça qui est émouvant.
Ouais.
Ah, y a des fautes d'orthographe, mais ça, on s'en fiche.
Ouais, beaucoup.
Quelques-unes, oui.
Elle raconte tout.
Elle raconte tout. Moi, j'ai pas tout mis, hein, mais elle raconte effectivement certaines anecdotes croustillantes. Elle adorait les animaux. Donc un jour, elle a acheté des chiens et des chats, et puis elle avait mis les chiens. Enfin, les chiens étaient tout près d'une bouilloire. La bouilloire tombe. Les chiens se brûlent. Alors elle explique comment elle les amène à l'hôpital pour les faire soigner. Il y a plein de petites anecdotes comme ça, un peu croustillantes aussi sur sa vie privée.
Je me dis quand même que si on ne l'a pas oublié, c'est sans doute grâce à Toulouse-Lautrec.
Oui.
Parce qu'au fond, les seules images qu'on a d'elle, hormis quelques photos, ce sont ses dessins de Lautrec.
Oui, 1891, c'est l'affiche qui la consacre. On dit que c'est un véritable coup de poing sur les murs de Paris. Plus de 100 peintures vont lui être, consacrées effectivement.
Ouais.
Oui, c'est le petit touffu qui la met en image, qui la met en mouvement et qui permettra de ne pas l'avoir oublié effectivement. Puis il y a les photos aussi, il y a certaines photos de nues. Il y a la photo qui orne le livre qui est de Paul Bacquart. Il y a aussi des photos d'Achille Delmaé qui sont là aussi comme support à sa gloire.
Elle a aimé des centaines d'hommes. Hein, probablement.
Ça la regarde. Hein.
Elle finit seule.
Oui, elle finit seule, mais elle a quand même un ami de cœur qui s'appelle Rétoré. Et jusqu'au bout, je pense que ça a été quelqu'un qui usait de son charme. Voilà. Et puis, le seul homme, comme je le disais tout à l'heure, qu'elle n'a pas su dompter, c'est son fils Simon-Victor Coll. Elle disait que c'était peut-être le fils d'un prince. Alors, dans ses mémoires, on dit qu'elle a fréquenté un dénommé Raymond, qui était un bourgeois, avec qui elle a eu des disputes continuelles, comme elle le dit souvent, pendant 5 ans. Donc, je pense que Simon, c'est le fils de Raymond. Mais Simon, il a mal tourné. Il a fait sa vie et il est mort, non pas à la guerre, comme on le dit souvent, parce que pendant la Grande Guerre, il a commis des voies de fait. Il a provoqué à la désertion en 1917.
Ouais.
Ensuite, il a fait du pénitencier. Il sort du pénitencier. Et comme elle le disait aussi, il était joueur comme la dame de pique. Donc, elle a été obligée d'éponger ses dettes.
Il a eu des enfants, ce Simon?
Alors, il aurait eu.
Parce que la question, c'est est-ce qu'il y a quelque part aujourd'hui un descendant de la Goulue.
Il y a un monsieur qui pensait être l'arrière-petit-fils de la Goulue, mais qui n'est plus. Alors, ça aurait été une liaison adultérine de Simon. Maintenant, je sais que donc la Goulue avait une sœur qui s'appelait Victorine, qui a eu un fils, Louis, dont elle s'est occupée longtemps.
Donc, elle dit qu'il était magnifique.
Moi, je dis que c'était le fils d'un roi parce qu'il porte le prénom Louis. Et puis, elle s'en est beaucoup occupée. D'ailleurs, il est né pendant qu'elle était au Moulin Rouge. Elle quitte la salle après avoir dansé et elle se précipite à la maternité pour le récupérer. Elle le met dans du coton et elle l'envoie sur la butte Montmartre. Et Louis a eu 15 enfants.
Donc, il y a de la descendance décalée.
Et du côté de la Belgique, en plus. Et ses descendants sont forains.
Et il faut donc qu'on parle de cette manière avec laquelle elle a affronté la moralité de son époque. Le personnage que vous faites vivre, ce commissaire Coutelat, est assez fascinant. Il est donc là, au Moulin Rouge, et avant ça, dans les autres cabarets dans lesquels elle danse, et avec un centimètre, il va mesurer l'ouverture des corsages des unes et des autres, c'est ça?
C'est ça. Alors, Coutelat du Rocher, on dit aussi le père Béranger ou le père Lapudeur. Il était photographe le jour et la nuit, il travaillait pour la police des mœurs. Et effectivement, il arbore à son cou un collier d'épingles de sûreté, comme vous l'avez dit, et un centimètre de couturière pour fermer les pantalons, mesurer les...
Ah d'accord, avec les épingles, il va...
Ah oui, parce qu'en fait...
Si c'est trop échancré, il ferme.
Oui, mais il y a une certaine hypocrisie, parce que les filles, si elles ne montaient pas les jambes assez haut, elles étaient à l'amende, et si elles montraient trop de leur chair, elles étaient aussi à l'amende. Mais bon, c'est un jeu de dupes.
Concrètement, de quelle chair parle-t-on? Du haut de la cuisse?
Il faut savoir que les danseuses aussi avaient des culottes plus ou moins fondues, donc il y avait l'intime efflorescence, comme on le dit si pudiquement.
Donc la Goulue laissait apparaître cette intime efflorescence?
Bien oui, certainement.
Certainement, elle fendait la culotte.
Elle fendait la culotte, mais ce qui était rigolo, c'est comme on l'a dit tout à l'heure dans le joli récit, c'est qu'elle remontait ses jupons et elle avait ce fameux coup de cul où elle montrait sa culotte ornée d'un cœur brodé.
Comment s'introduit-elle dans la haute? Parce qu'en vérité, elle est d'une vulgarité effroyable. Enfin, dès qu'elle ouvre la bouche, elle n'a pas sa place là.
Non, mais je pense que ça doit émoustiller certainement le bourgeois en goguette. Et puis, ce qui l'a fait connaître, c'est le Grand Véfour, effectivement, avec Charles Destock, un des charlots qu'elle a mis dans son lit. Elle avait deux charlots dans sa vie. Il y avait Charles Tazini, le déménageur, pour qui elle s'est fait tatouer un charlot sur le bras gauche. Et que quand ça a été fini avec Charlot, de manière assez violente aussi, puisqu'elle l'a aussi mené en procès, elle mettait des gants pour cacher tout ça. Et puis Charles Destock, le futur maire de Reims, l'intrépide Vide-Bouteille, va très bien comprendre la façon de la mettre en valeur et il l'a fait connaître au Grand Véfour, effectivement. Mais je pense que ça devait émoustiller son caractère un petit peu borderline, devait émoustiller le bourgeois en manne.
Mais elle n'aimait pas les bourgeois. Elle était plus à l'aise, au fond, dans son milieu social.
Dans son milieu, effectivement. D'ailleurs, c'est le milieu qu'elle fréquente au tout début avec les marginaux de la zone et le milieu qu'elle va retrouver aussi...
Avec la baraque foraine.
Avec la baraque foraine et le milieu qu'elle retrouvera dans sa roulotte qu'elle loue 20 francs par mois lorsqu'elle va mourir dans la cité des chiffonniers. Et oui, elle revient... J'ai presque envie de dire que c'est une fleur du pavé qui a voulu s'émanciper, mais malheureusement, il y a un certain déterminisme... Et elle repart là où elle a vécu.
Là où elle est née.
Oui.
Exactement. Dans cette petite ville de Clichy, donc j'ai pas pu tout dire, mais c'est assez amusant, puisque quand naît la Goulue, quand naît Louise, Clichy est une ville nouvelle. C'est rigolo, ça.
Oui.
C'est une ville qu'on vient de construire.
Ça, c'est une
qui n'existait pas, qu'on vient d'inventer. Hein, c'est ça.
C'est tout à fait ça. Une ville qui est en bordure de Paris. Et elle passe le fameux pont pour aller guincher après du côté de Saint-Ouen.
À votre connaissance, est-ce qu'elle pouvait imaginer que tant d'années après, plus d'un siècle plus tard, on se retrouverait ici dans un studio de radio pour raconter sa vie? Est-ce qu'elle avait le sentiment d'être une légende qui resterait à la fin de sa vie?
Mais comme elle le dit si bien, toi tu peins, tu resteras, moi on m'oubliera. Et moi c'est bien pour ça que j'ai fait ce livre, c'est pour éviter qu'on l'oublie. Réhabiliter sa mémoire pour pas n'en faire qu'une seule femme montreuse de jupons, mais une femme dans son temps effectivement, mais qui est terriblement contemporaine, humaniste et généreuse à la fois.
Unique.
Unique. Il n'y a qu'une seule Goulue d'ailleurs.
Et depuis, le Moulin Rouge a-t-il cherché à exploiter son image? Oui. Ils vous ont ouvert le coffre-fort, vous pouvez pas la dire du mal d'eux, mais est-ce qu'au fond, cette femme qui est partie il y a très très longtemps, et qu'on fait revenir comme ça par son mythe, tant d'années après.
Mais elle n'a jamais été oubliée au Moulin Rouge. D'ailleurs, sur leur site internet, il y a une page qui lui est consacrée, ainsi qu'à Grille d'Égout ou aux autres danseuses, non?
Les noms des danseuses étaient incroyables.
Ah, c'est génial.
La Goulue, Grille d'Égout.
Demi-Siphon. D'ailleurs, Demi-Siphon, il va lui arriver une aventure pas croyable, parce qu'elle va se briser les os du bassin lors de l'inauguration de l'Olympia. Mais ces femmes-là, casser un certain carcan social, quoi. Elles veulent prouver qu'elles sont là, qu'elles n'ont pas besoin des hommes, parce qu'effectivement, le quadrille, il faut le rappeler, c'est une danse de femmes où le cavalier est un faire-valoir, c'est un coq dans un poulailler, et elles mènent le cavalier seules, ces femmes-là.
À partir de quand on appellera ça le French Cancan? Pas du tout du temps de la Goulue, en vérité.
Non, plus tard, mais le cancan...
On
commence par dire le chahut.
Le chahut, voilà. Le fameux pas.
Alors, c'est l'art de montrer ses dessous et l'art de lever la jambe, comme vous l'avez dit en introduction. Après, il y a l'art de lever le jupon. Et j'ai l'impression qu'après, le tout combiné devient le French Cancan.
Mais ça devient French Cancan par l'Angleterre, en fait, c'est ça?
Oui, par un certain Morton, effectivement.
Voilà, qui décide d'appeler ça le French Cancan. Et finalement, le Moulin Rouge, lui-même, va finir par appeler cette danse French Cancan.
Exactement.
Merci beaucoup, Marilyn Martin, d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci de l'avoir ressuscité et merci de m'avoir autorisé à vous prêter ma voix pour raconter cette histoire que l'on retrouve donc dans ce livre qui s'appelle « La Goulue, reine du Moulin Rouge » et qui paraît, là, maintenant, aux éditions du Rocher.
Merci Christophe.
Très bon après-midi à vous tous. À demain, 2h de l'après-midi.
Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.